Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus d'Histoire de Daron, le podcast qui donne la parole aux pères pour discuter de paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'entendre la suite de l'épisode avec Jérôme, le papa de Lucas qui est né grand prématuré. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il est réalisé en duo avec Clémentine Sarlat, qui est l'animatrice du podcast La Matrescence, dont je vous recommande l'écoute d'ailleurs. Clémentine a reçu Fanny dans son épisode précédent et pour la première fois dans l'histoire de Daron, on se retrouve à faire une interview du papa et de la maman ensemble avec Clémentine. Mais je vous en dis pas plus, je lui laisse la parole tout de suite.
Pour cet épisode, nous nous sommes réunis avec Fabrice Florent, le fondateur du podcast Histoire de Daron, pour donner la voix à ce couple. D'ailleurs, je vous recommande le podcast Histoire de Daron. Ici, vous entendrez Jérôme, le papa, livrer sa version de la prématurité aux côtés de sa femme. Avec eux, nous avons voulu montrer qu'au sein d'un même couple, chaque individu vit et traverse les difficultés de la vie avec un regard parfois bien différent. Et pourtant, jamais, et on le sent, ces deux êtres n'ont cessé de s'aimer. C'est une expérience enrichissante que d'avoir deux points de vue d'un même événement. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour Clémentine.
Salut, comment il t'a appelé? Non, je
vais faire Patrice.
Salut Patrice. Salut Fabrice.
Comment ça va?
Ça va, super. J'ai jamais fait un épisode à 4.
Moi non plus.
Donc, on n'est pas tout seul, on est bien 5 même.
5.
Ouais.
On est 5, il y a Lucas.
Salut.
Et donc, on invente un concept un peu différent où maintenant, c'est les deux parents qui vont venir nous parler et raconter chacun un peu leur vision de l'histoire qui n'est pas la même, même s'ils ont vécu le même scénario. Et c'est hyper intéressant. Je peux commencer avec une première question?
Si tu veux.
Est-ce que déjà vous avez conscience que vous n'avez pas le même ressenti? Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas?
On s'en est rendu compte, oui.
Comment?
On s'en est rendu compte un peu avec le recul quand on est rentré à la maison et quand on a commencé à reparler de ce qu'on avait vécu. On a vu que sur certains points, on n'avait pas vécu les choses exactement de la même manière et... Puis même pendant l'hospitalisation aussi, hein, il y a des fois où on s'est aperçu qu'on n'avait pas le même point de vue.
Et alors, qu'est-ce qui différenciait?
Nos tempéraments, déjà, je pense.
Oui, nos tempéraments, oui. Moi, je suis beaucoup plus... Je suis moins démonstratif que toi, ça, déjà.
Et puis, j'ai l'impression que tu as réalisé certaines choses qu'avec le recul, toi. T'as positivé, mais t'as pris conscience du danger qu'avec le recul, en fait.
C'est ça, exactement.
Comment ça? Salut, Lucas. Alors si vous, pour les auditeurs d'Histoire de Daron, si vous écoutez le bip bip bip, enfin si vous entendez le bip bip bip, c'est le monitoring du bébé, hein, voilà.
Mais là il est bien donc.
C'est la saturation, oui. On l'a bien entendu, oui nous on l'a bien entendu, oui, dans tout l'épisode. C'est
dans
vrai.
Votre épisode.
On disait que tu avais pris conscience de certaines, voilà, on n'avait pas vécu tout à fait les choses de la même manière, toi tu avais conscientisé certaines choses, plus avec le recul en rentrant à la maison.
Parce que moi je vis beaucoup au jour le jour. Donc quand vous avez le problème en face des yeux, eh bien, il faut le surmonter et on n'a pas forcément le temps de se poser, de faire le point là-dessus. Et c'est après, j'ai dit, ça a été chaud là l'autre jour.
Ça a été surtout quelques mois après toi.
Est-ce que toi, parce que de ce que m'a raconté Fanny, pour elle, vraiment le moment du pot à pot, de le prendre dans les bras, c'est ce moment où elle est devenue mère quelque part? Est-ce que toi t'as vu un changement en Fanny à ce moment-là? Est-ce que toi t'as ressenti un changement quand tu l'as pris?
Fanny, ça s'est vu dans les yeux. Quand elle a appelé le petit, donc forcément elle appréhendait un peu, de son point de vue. Mais après il pleurait aussi.
Mais c'est surtout que toi, Jérôme, ce que tu me racontais, c'est que le premier pot à pot, t'as pas voulu.
Ah, moi j'ai pas voulu, non, j'ai laissé à la maman.
Ouais. Et c'est là où il perd des. Ben, souvent il laisse une place qui a pas forcément lieu. En fait,
comment
c'est
ça?
Il priorisait en fait ma place en tant que maman. Il avait du mal à prendre son rôle de papa pleinement parce que le pot à pot il est important au niveau de la maman, mais c'est très important au niveau du papa. Et c'est vrai qu'il voulait plus me laisser cette place-là en disant mais il était dans ton ventre, c'était important. Alors qu'il y a une place qui est tout aussi importante et que Lucas en plus est arrivé bien avant. Donc non seulement pendant la grossesse, le papa je pense qu'il a un rôle qui est tout aussi important que la maman. Et après pendant la couveuse, il a été aussi présent que moi. Donc le pot à pot, il y avait autant le droit que moi. Et ça a été dur cette étape-là de le prendre sur toi parce que tu voulais me faire toujours passer avant.
Moi, ouais, tu me disais que tu avais un peu peur aussi.
Qu'il glisse et que je fasse tomber. Ouais. C'est vrai.
Jérôme, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez eu la sensation tous les deux de gérer l'anxiété et la peur différemment? Est-ce que vous pouviez échanger entre vous sur ces thèmes-là ou il faut garder la face parce que comme vous vivez au jour le jour, vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous n'en parlez pas entre vous?
Joker. Je ne sais pas. Je pourrais pas répondre. Vous
avez jamais discuté de la peur ou de l'anxiété que
si,
vous pouviez.
Si, bien sûr, pas au quotidien. Sur des moments qui étaient vraiment stressants, angoissants, on en a parlé. On communiquait là-dessus. Après, je pense que là aussi, nos tempéraments font que on essayait, quand il y en a un qui avait peut-être un peu plus peur que l'autre, essayer de se soutenir aussi à ce moment-là. Faire en sorte que l'autre aille un peu mieux et se porter un petit peu vers le haut. Et voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, Lucas était le moteur de ça, quoi.
Toi, Jérôme, t'en dis quoi?
Non,
c'est pas parce que Fanny est là que tu vas t'en sortir.
Non,
hein. Elle va pas
ça.
Tout parler
non,
à ta place.
Tout
hein, c'est pas possible.
Non, j'avais pas de mots à poser là-dessus. Et c'est très bien résumé.
Et toi, est-ce que chez nous, les femmes, je pense qu'il y a quand même des moments très précis où on se sent devenir mère. Est-ce que toi, c'était quelque chose de prégnant de... Quand tu as eu ton bébé dans les bras, est-ce que tu as vécu de loin, que ce soit l'accouchement, les premiers moments de vie? Est-ce que tu as eu un moment de réalisation de te dire « Ok, je suis père et je me considère en tant que tel »
Je pense que c'est plus quand on est rentré chez nous. Vraiment. Après, non, quand au premier pot à pot, là, ouais, donc on se rend compte. Mais à la maison, c'est pas du même moment, on était chez nous, quoi. C'est vrai. Je sais pas.
Parce que tu avais un rôle à jouer, tu penses?
Pas à jouer, mais... Non, je sais pas, c'était... Eh bien là, c'est parti, on a notre enfant, il faut se lever, il faut s'en occuper, il faut... On était indépendants, donc... Et pas tous les médecins autour, les aides-soignantes, les... Là, on est vraiment... vraiment livrés à nous-mêmes, quoi.
Ok.
Donc là, j'ai trouvé ma place de père.
Alors, ouais, ils font tout pour, hein, dans les services,
oui,
pour qu'on trouve notre place.
Hein.
Ils essayent au maximum, mais c'est vrai qu'on est très, très entourés. Hein. On se retrouve que très rarement à trois.
Dans la maison des parents, toi, tu me disais que ça faisait une sensation de deuxième maison, clairement. Toi, tu as eu cette sensation-là?
Oui.
Tu disais que tu étais bordelais. Vous étiez bordelais.
On était bordelais.
Ah, on est devenus bordelais pendant 5 mois, ouais. C'est...
C'était le CHU, la maison des parents.
Mais la sensation de deuxième maison au niveau de l'accueil,
Surtout qu'on pouvait recevoir du monde, donc c'est sympa. On faisait les repas, c'est comme si on était à la maison, en fait.
Là, ça nous a permis de maintenir une vie sociale, en fait. Ça a été notre vie sociale pendant 5 mois, notre béquille. Voilà, je disais, elle savait être présente quand il fallait. Mmh. Et discrète quand elle voyait qu'on en avait besoin aussi, moi.
Ah ben, sont habitués.
Toi, t'as apprécié le fait que vous partagiez la même expérience que d'autres parents? C'était important aussi de dire, on n'est pas tout seul dans cette aventure, il y a d'autres gens qui vivent comme nous.
Mais au début, j'étais pas ouvert à ça. Au début, je voulais voir personne. Et en fait, c'est parce que notre couple nous a parlé que ça a déclenché. Sinon, je pense que on aurait été dans notre coin, quoi.
Et c'est... Oui, c'est le fait que d'autres parents soient venus vous voir, c'est ça? Parce que...
Oui, c'est le déclic. Comme ça.
Après, quand on est arrivé, il faut remettre dans le contexte. Au début, on est dans une période qui est super, super angoissante. Donc, on n'a pas forcément envie de partager et de recevoir des autres non plus. Moi, on est vraiment où on est fermé. Mais la maison des parents permet ça aussi. C'est une chambre, une cuisine commune, mais on ne mange pas en commun. Hein. On se met à manger, on mange dans notre coin. Ça permet aussi cette petite bulle d'être seule et de se ressourcer quand on en a besoin. Et au fur et à mesure que Lucas allait mieux, on a des parents qui sont venus nous parler aussi en nous disant bon, vous êtes là pour nous, il nous arrive ça, et on commence à échanger comme ça, puis on s'aperçoit que on n'est pas seul à vivre cette situation là ou d'autres situations, parce qu'ils viennent pour plein de choses différentes. Et ouais, on a commencé à se lier avec d'abord un couple, puis deux et trois. Et non.
Alors qu'à la base, on n'est pas comme ça, quoi.
Alors, oui,
on n'est pas trop allé raconter notre vie.
Mais c'est surtout aussi partager celle des
dans
autres.
Dans ce moment-là, en plus.
C'était partager celle des autres, quoi. Moi, ça m'a aidé en quelque sorte de sentir qu'on pouvait aussi être un soutien pour quelqu'un qui en avait besoin. Et que, en retour, on avait un soutien dans d'autres situations.
Ouais.
Alors qu'au début, il disait, mais moi je comprends pas, je veux pas raconter l'histoire de Lucas à tout le monde. Puis une fois que ça allait mieux, mais c'était lui qui allait voir les gens.
On était les anciens, quoi, après.
Il y a une hiérarchie après dans la vie, c'est ça.
Dans la fin, on était les anciennes.
Ça fait rigoler Lucas, d'ailleurs, je te l'ai dit. Et vous m'avez expliqué, quand on a discuté avant de faire le podcast, qu'au début, donc, vous étiez très fermé parce que vous viviez quelque chose de tellement difficile et qu'au fur et à mesure, vous avez pu vous ouvrir. Comment ça s'est passé au sein de la maison des parents? Est-ce qu'il y a des gens du personnel qui viennent vous voir pour dire, vous solliciter? Est-ce que vous voulez participer à la vie collective? Est-ce que vous voulez mettre des choses en place? Comment est-ce que vous vivez votre lien social à l'intérieur de la maison?
Mais c'est pas évident. Vu qu'on est tout le temps sur notre enfant, à vouloir s'occuper de lui et tout ça. Alors, ce que la maison McDo met en place, c'est une fois par semaine, ils font des animations. Après, s'inscrit, qui veut y aller ou pas. Bon, après, il faut avoir la tête à vraiment vouloir partager. Donc, il y a des couples ou des personnes qui n'ont pas forcément envie.
C'est quoi comme sorte d'animation, pardon?
Il peut avoir de tout. C'est, il peut avoir quelqu'un d'extérieur qui vient pour faire de la mousse au chocolat.
Ok.
Mousse au chocolat à plusieurs, ou je sais pas, c'était quoi, atelier créatif. Il y a un peu de tout. Une fois, on a eu atelier relaxation. Une dame qui venait, petit massage, voilà.
Ouais, c'était varié. Il y a pas mal de choses en place qui sont relativement variées, ouais. Qui peuvent convenir à plusieurs types de personnes. Là, ils font les repas participatifs aussi, là.
On fait des repas à thème aussi, du coup.
Et au début, tu n'y allais pas?
Bon, je n'en ai pas fait beaucoup, parce que quand on était souvent avec Lucas, on avait une tranche d'horaire. À la rigueur, si on faisait des activités, c'était après-minuit, quoi. Parce que Lucas avait beaucoup besoin de nous. Donc, c'est souvent les bras, c'était... Pour l'endormir, c'était tout un bazar. Donc, du coup, non, les activités, on avait fait celle relaxation, parce qu'on était là, donc ça tombait bien. Mais après, on a fait cette soirée qu'on avait proposée, là, pour rassembler un peu...
Il faut que tu racontes un peu.
Alors, on va raconter. À savoir qu'ils font beaucoup, je tenais à souligner, pour Noël, tous les parents ont eu des cadeaux pour leurs enfants, de la maison McDonald's. Et on ne s'y attendait pas, les parents, plus les enfants. Et tout le monde a eu son cadeau. Alors, pour nous...
Ils ont fait le réveillon,
on n'avait pas prévu
le repas de Noël.
Donc, ils ont fait... un bon repas, ils ont... Et ensuite, donc on s'était excusé pour être là, et puis on avait fait connaissance d'un couple dont le mari fait de la guitare. Et en déconnant, puisque j'aime bien déconner, j'ai dit, je vais te produire, tu vas nous faire un gros spectacle. Donc il m'a dit, pourquoi pas. Donc j'ai dit, écoute, ma nièce fait du flamenco, on va faire une soirée espagnole. Donc ça reste là. Et donc ça fait le bouche à oreille. Et elles sont venues nous voir en disant vous voulez faire une soirée espagnole. On m'a dit pourquoi pas, il faudrait voir ensuite. Voilà, c'était sur le coup de la vanne. Et sauf que du coup ça a été plus sérieux. Malheureusement, le couple d'amis qui fait le copain qui faisait la guitare a dû partir. Et là, ils ont été transférés. Bon, on a quand même fait la soirée espagnole, du coup. Ma nièce est venue avec sa prof de danse. Et du coup, ils ont fait le flamenco. On a ramené 2-3 jeux de lumière. Les filles ont décoré aux couleurs espagnoles. Les parents ont fait, plusieurs parents ont fait la paella avec les filles qui s'occupent de la maison. Et puis, écoutez, voilà, hein, ça s'est super bien passé. On a dansé. On n'a pas fait la fiesta, puisqu'on n'a pas non plus la tête à ça. Mais pendant une soirée.
Sortir un peu la tête.
Ouais.
Quoi.
Et puis, on n'a pas discuté avec des gens avec qui on n'aurait pas discuté. J'ai discuté vite fait avec des gens, un couple qui, quand ils me passaient à côté, c'est bonjour, point. Parce que je les trouvais renfermés, peut-être qu'eux aussi me retrouvaient renfermés, et du coup, il n'y a pas de dialogue. Quoi.
Le paella, ça aide.
Le paella, ça aide. C'est ça.
Ce qu'on se serait sûrement pas permis de faire dans un autre cadre, dans un autre concept. C'était pas une période où on se serait dit, tiens, on va aller manger une paella, ne serait-ce qu'au resto, en fait. On avait coupé un petit peu tout ce lien-là et le fait que ça soit organisé au sein de la maison des parents, ça nous permet de garder quand même une activité sociale sans culpabiliser non plus à côté. De se dire, je m'en vais à tel endroit où je profite de ça et ça permet
de partager
un moment avec des gens surtout qui vivent la même chose au même moment.
Oh, c'est sympa, ça a permis de s'évader quoi. Et se vider un peu la tête avec un petit spectacle.
Te lancer dans une carrière de producteur, toi aussi,
ouais,
tu vois.
Il en a toujours rêvé.
Ça n'a pas fruité. C'est tombé à l'eau.
Est-ce que dans toute votre expérience là-bas, au CHU, est-ce qu'il y a des propositions de suivi psy, pas que individualisé, mais vous en tant que famille, pour parler de ce que vous vivez ensemble?
Alors, en dehors du CHU, une fois qu'on est sorti.
Pendant votre expérience là-bas, ensuite.
On a eu un petit suivi psy, justement, qu'on a vu deux fois. Après, il y a eu le confinement.
Mais c'était ensemble?
Ouais,
ou c'est chacun individuellement?
Non, c'était ensemble. Et surtout, elle venait voir Lucas aussi, voir comment ça se passait. Et après, non, mais du coup, on est suivi par contre en extérieur par un psychologue vers chez nous.
Mais ça, c'est en dehors de du CHU, quoi. Vous avez démarré ça il n'y a pas très longtemps, c'est ce que tu m'as dit.
Ouais, c'est ça. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours, 3 semaines.
Mais pendant l'hospitalisation, oui, il y a les psychologues qui sont inter-services, qui sont là, qui sont présentes, si on en a besoin à tout moment, hein, que ça soit en réa pédiatrique, il y a la psychologue de la réa pédiatrique. Et en service néonat aussi, il y a la psychologue qui est très présente. Si on a besoin de quoi que ce soit, elle se tient disponible. Elle nous a même laissé son numéro si jamais un jour on a besoin. Donc c'est pas un suivi classique avec des rendez-vous, mais elles sont disponibles. Elles passent nous voir en néonat. Elles passent nous voir assez régulièrement, en tout cas voir comment on allait et faire un petit point rapide.
Et c'est indiscret de vous demander ce qui a fait que vous avez décidé de faire ce suivi à deux, là, avec une psy à 15 jours, 3 semaines?
Je pense qu'on en a besoin aussi bien l'un que l'autre, hein, au niveau psychologique. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas digéré sur la prématurité.
Et toi, Jérôme, t'en dis quoi?
Non, j'étais souvent à fleur de peau. Pour moi, j'étais souvent à fleur de peau. Donc, comme je disais, j'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Et en fait, au final, si, ça fait du bien, faut pas se mentir. De pouvoir poser des mots sur une situation, de dire quand ça va pas, ou je comprends pas. Non, si, je trouve que c'est bien. C'est bien.
C'était peut-être aussi l'occasion pour vous deux de débriefer de situations où vous aviez pas forcément l'occasion de débriefer dans le feu de l'action, quoi, non?
Si, aussi, oui. Il y a des choses que... Non, il y a des choses.
Ouais. T'es en train de... Tu nous fais une Jérôme, là.
Vas-y, ça y est.
T'as vu, c'est toi qui t'as vu, tu parles.
Complètement. Celui qui a une cale, le Joker, en fait.
Non, je sais que moi, par exemple, j'avais peur de comment on allait vivre notre vie de couple par rapport à Lucas. Donc, je lui ai dit que j'avais peur, concrètement, que. Enfin, on s'énerve pour X raisons, qu'on se sépare. Et c'est un truc qui. C'est une peur qui n'était pas fondée en plus. Mais du coup, on en a discuté.
Qui n'était pas fondée, mais qui existe chez plein de parents. Hein,
oui, vraiment, c'est qui existe. Ouais. Mais moi, c'était ma peur un peu. Mmh. Parce que bah, on s'engueule comme tous les couples. Bon, voilà. Et ça, j'en avais peur. Et en fait, bon, on a discuté. J'ai repris. Mais alors que non, pas de raison, quoi. Donc ça permet d'engendrer des dialogues qu'on n'aurait pas fait forcément, ouais.
Est-ce que tu as la sensation aussi que comme vous avez vécu 5 mois de prématurité où au final vous partagiez pas une vie à trois, puisque Lucas il était à l'extérieur et vous étiez toujours dans votre bulle de couple, le fait d'arriver à la maison aussi, ben c'est un nouvel apprentissage. C'est comme si vous reveniez de la maternité juste après un accouchement. C'est une vie différente qui commence après toute la néonate.
Ça j'ai pas trop ressenti moi en fait.
Moi si, beaucoup quand même.
Moi, j'ai pas trop ressenti parce qu'il fallait. En fait, on n'avait rien prévu. Ça s'est passé tellement vite que. Eh bien, il a fallu préparer vite fait la chambre, il a fallu acheter des couches, acheter tout ce qu'il nous fallait, quoi, pour accueillir Lucas. On n'a pas eu trop le temps de se poser. Du coup, après, il y avait Tout ce qu'on a ramené de la maison au McDo, eh bien, il fallait tout ranger.
Oui, mais une fois qu'on est rentré à la maison, ça n'a pas duré jusqu'à aujourd'hui, tu vois.
Ah non, parce qu'aujourd'hui. Voilà.
C'est les darons, ils sont souvent dans les trucs hyper techniques, tu sais.
Ouais.
Tu vois, très pratico-pratique. C'est ça. Il faut faire en sorte que.
Fait, quoi.
Ils font le nid.
C'est ça.
Oui, c'est vrai. Puis, ah, mais oui.
Tu vois, là, c'est bien, de ça ouais. dont il parle, quoi. Tu vois, il est là. Ok, il fallait faire en sorte de tout ranger. Très bien.
Oui, il faut faire
le nid. Il fallait que la maison soit propre, en fait.
Mais ça vous a pris. Ça vous a pris deux ou trois jours, ça, tu vois, Maxi.
Après, il y a une.
Non mais oui, mais allez, ça t'a pris en non, totalité, oui, oui, oui. Ouais.
Je vois bien, t'en esquivé.
Non, mais c'était plus dans le sens où tu disais que t'avais peur que ça perturbe votre couple, tout ça. Vous avez quand même vécu une situation particulière où pendant 5 mois, vous avez toujours eu cette bulle de couple et qui d'un coup, ben, quand tu reviens à la maison, c'est une autre dynamique.
On est rentrés à 3, quoi, et il fallait trouver sa place à 3. Et...
Tu l'as pas ressenti comme ça?
Non, non, j'ai pas ressenti de...
Et toi, Fanny?
J'ai l'impression qu'on est toujours dans notre bulle, hein, à part quand on voit.
Ouais, c'est vrai qu'on reste quand même.
On a confiné un peu plus ou moins.
Notre bulle de couple, elle a pas trop explosé. Il y a Lucas qui s'est bien intégré dedans quand même. Après, c'est vrai que.
Et parce que vous avez eu le confinement aussi qui vous a, de ce fait-là, recréé une bulle à trois, quoi.
Ah, mais une bulle totale à trois. Hein. Mmh. Là, c'était même plus question de vie sociale. Hein. Nous, on est sortis le 17 mars, jour du confinement. Mmh. On est rentré à la maison, donc oui, à part 2-3 intervenants extérieurs, hein, vraiment pour l'oxygénothérapie de Lucas, ou sinon on ne voyait personne. Hein. Vraiment tous les trois, donc ça a peut-être pu aussi maintenir aussi, ça a été un petit peu la parenthèse, le lien entre l'hospitalisation et la vie de famille.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande peur, Jérôme? Est-ce que vous êtes sorti de cette phase de peur ou ça reste?
Phase de peur, c'est perdre mon fils, hein, concrètement. Après, je pense qu'il est sauvé. Pour moi, il est sauvé. Après, rien n'est jamais gagné, de toute façon, mais je pense qu'on est en bonne voie de lui enlever cet oxygène. Hein. Et puis, je vois pas pourquoi, hein. Ça irait pas, de toute façon. On fait tout ce qu'il faut... Pour que ça aille bien, quoi.
Il y a un truc dont vous, il y a un épisode dont vous n'avez pas parlé, je pense, entre vous, les filles, dont on a parlé, c'est ce fameux moment où vous le transférez à la maternité, au 4e étage, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ou en fait, j'imagine que pour vous, c'est une forme de soulagement aussi de vous dire, ok, en fait, il sort de.
Ah, mais complètement.
Voilà.
Complètement. On nous maintient pendant 2 mois la tête sous l'eau en réa pédiatrique en nous disant, tant qu'il est là, c'est que le pronostic vital est engagé. Ouais, clairement. Donc là, comme je disais, 31 décembre, on nous dit ça y est, transfert en néonat. Donc pour nous, ça veut dire plus de pronostic vital engagé. Donc là, oui, non, là, on croyait qu'on allait s'autoriser à respirer et qu'on était plus près de la sortie que de l'entrée.
Entendu, Jérôme, c'était le 31 décembre, pas à Noël.
Ah, il savait plus trop.
Le malaise de Lucas était pour la nouvelle ouais. année. C'est ça, le lendemain, ouais, le 1er ouais. janvier, en fait.
Et vous avez cette aide-soignante, cette infirmière, je sais pas, qui lui donne un médicament, c'est ça?
En fait, ils prennent vraiment en compte la douleur de l'enfant. Hein. C'est vraiment ça, c'est quelque chose de très bien. C'est quand même pas trop mal. Et c'est une puéricultrice, oui, qui fait son travail tout à fait correctement, mais qui donne la morphine qui jusque-là Lucas l'avait en intraveineuse. Elle lui donne par la bouche parce que ben, c'est sûrement pas spécifié sur le dossier. Moi, de toute façon, le but est de lui sortir la voie veineuse dès le lendemain. Donc oui, il fallait qu'il passe en relais péros par la bouche. Et elle lui donne et ça passe de travers. Il fait ce qu'on appelle une fausse route. et il inhale.
On n'est pas obligé d'en parler. Hein, si
ça a été dur. C'est... Il a inhalé et comme on l'a dit, il a fait un arrêt cardiaque. Donc
on a bien compris que...
Ça allait être compliqué.
C'est pas parce qu'on changeait de service que la vie allait... Voilà, qu'on allait vraiment pouvoir respirer et que ça restait... C'est la néonate, mais c'est soins intensifs néonates. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont même récupéré, ils ont changé leur organisation. Hein. Ils font de l'aria pédiatrique sur des tout petits bébés maintenant. Ils commençaient un petit peu à l'époque où nous on est arrivé avec Lucas. Et maintenant, je crois qu'ils ont changé. Ils accueillent les petits bébés comme Lucas directement dans le service de soins intensifs. Donc c'est réa bébé soins intensifs néonates sur le même étage. Voilà, mais c'est vrai qu'on a pris un peu conscience vivolamment que en fait voilà, c'était juste que Lucas était transférable et que jusque là il n'était pas transférable dans le service quoi.
À quel moment est-ce qu'on vous explique à tous les deux que vous allez pouvoir sortir et qu'est-ce que ça vous fait à ce moment-là? Vous y croyez ou vous restez toujours sur vos gardes?
Le jour où on est sorti,
qu'on vous annonce que vous allez pouvoir rentrer chez vous et que ça y est,
Un petit soulagement. Petit soulagement, et ça faisait bizarre. Ça fait bizarre parce qu'on a vécu 5 mois à Bordeaux. Repartir à la maison, ça paraissait bizarre. Après, content aussi. Peut-être très content de rentrer chez nous. Après, avec ma petite fille, le petit fiston.
On a été bien préparés là aussi. Je pense qu'on serait. Moi, la chambre mère-enfant, comme on disait, on n'y a pas passé beaucoup de temps. Mais le peu qu'on a passé, la chambre parent-enfant, ça aide quand même. Ça fait un petit lien entre l'hôpital et la maison. Enfin, ça nous a permis de passer quelques nuits vraiment avec Lucas, nous trois, avec la nécessité, si besoin, on avait le personnel soignant qui était là, mais qui se faisait plus discret que dans les box.
Moi, j'ai une question, c'est est-ce que votre vision de la parentalité, elle a changé à cause de la prématurité? Ou est-ce que vous étiez imaginé parent et que vous êtes les parents que vous imaginiez envers Lucas?
C'est super compliqué comme question parce qu'on est les parents qu'on imaginait pour Lucas. Après, on avait peut-être imaginé quelque chose de moins médicalisé. Concrètement, moi, on s'imagine jamais une parentalité aussi médicalisée, alors que ça peut arriver pour X raisons, même autre que la prématurité. Moi, nous, on se projette pas comme ça. Après, je pense qu'avec le parcours qu'on a eu, on a eu le temps de se projeter sur différentes situations qui font que on s'est tellement projeté qu'à la fin, on se projetait plus en tant que parent. Donc, on est parent et c'est déjà beaucoup. Et Lucas, voilà, moi, c'est un petit bonheur tous les jours, quoi. C'est vraiment.
Je te dis ça parce que, tu vois, avant d'être parent, on a tous ces principes et puis on devient parent et on oublie. Mais mais de ce que tu m'as raconté, de ce que j'ai compris, par exemple l'importance du pot à pot, du portage, est-ce que tu penses que c'est des choses qui étaient déjà en toi ou le fait qu'il soit préma, ça vous a emmené encore plus dans cette voie-là parce qu'il a des besoins encore plus forts?
Alors c'était déjà en moi et c'est même à l'inverse. C'est-à-dire que moi, je m'étais idéalisé l'allaitement, par exemple. Bon, comme on disait, j'ai pas pu, à proprement dit, moi, je l'ai allaité, mais je ne l'ai jamais eu au sein, Lucas. Il a toujours été nourri par des sondes, par moi, voilà. Et c'était pas ça que j'avais idéalisé. Le portage, c'est pareil. J'ai toujours été, dans mon idéal, c'était le portage au maximum. Et puis, comme on disait, la première fois qu'on l'a eu, il avait 4 semaines. Ouais, c'est plus dans le sens inverse, en fait, où on a l'impression d'avoir pas pu profiter de certaines choses qui me semblaient importantes, mais qu'on compense maintenant aujourd'hui différemment, mais sur le coup qui ont été plus mal vécues que.
T'avais idéalisé des trucs toi, Jérôme, en tant que papa, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est plus chez les mamans, tu vois, que chez les papas.
Non, pas forcément, non. Je sais que si, je joue au foot, ce que je disais tout à l'heure. Ça sera plus tard.
Oui, c'est ça, c'est pas tout de suite. Voilà. Ouais.
Ça sera pas pour quand il a commencé à courir. Quoi.
Ouais.
D'abord, il va se remettre ses petits poumons bien comme il faut, et puis on verra après.
Ouais.
Ça se fera, mais plus tard.
Mais t'avais pas idéalisé, en tant que papa, un truc de jeune papa, quoi, tu vois, de typiquement quelques jours, quelques semaines après la naissance.
J'ai l'impression que ça se passe. C'est très masculin de s'imaginer papa, mais plus tard, en fait.
Ouais.
Papa d'un grand. D'un enfant, pas d'un bébé.
Qui joue au foot.
Qui joue au foot, ouais. Qui joue au rugby, ou bah, qui joue, quoi.
Qui a plus de couche.
Qui joue, qui marche.
Qui n'a pas de couche.
À toi, t'as eu l'échange.
Et toi, t'as eu la version très, très en avance, du coup.
Alors là, on aurait dû l'emmener. Par rapport à un bébé normal, on ne peut pas savoir. Puisqu'on a eu un bébé préma, donc qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est normal avec un bébé né à terme? Mais nous, ça, on ne peut pas le savoir. Nous, on a tout le temps fait avec un petit préma. Mais bon, qui devient un vrai bébé, mais...
Oh, mais c'est un vrai bébé, oui.
Mais c'est un vrai bébé, mais il était tout petit.
Bon, par contre, pendant donc, quelques mois, il s'est... Voilà.
Et est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez eu 12 années de parcours pour avoir votre fils fait que vous avez aussi pu tenir aussi bien toutes les problématiques parce que vous vous connaissez par cœur, parce que vous n'êtes pas un jeune couple, vous êtes un couple qui se connaît vraiment profondément. Tu penses que ça a pu être une force aussi pour gérer tout ce que vous avez eu à gérer avec lui ?
Ouais, non, mais c'est même plus qu'une force, mais ça, je pense que... Voilà, les 12 ans, ouais, les 12 ans passés, voilà, c'est des épreuves qui auraient pu nous séparer et qui nous ont rapprochés. Bon, la prématurité, ça a été pareil. Je ne me vois absolument à aucun moment vivre ça toute seule. J'aurais pas pu le traverser toute seule. S'il aurait pas été là, j'aurais pas pu le traverser toute seule. J'ai de la chance que ce soit un papa qui est très, très, très présent.
On le voit, il veut pas te redonner, Lucas.
Oui, non, il l'a repris.
Et toi, tu l'as vécu comment, alors ? Tu penses que ça a été...
Non, non, mais de toute façon, comment dire ? Moi, je pars du principe que du moment où on s'est mariés, nous, c'est qu'on est sûr de ce qu'on veut. Voilà, ça, c'est peut-être bête. Mais donc, moi, je sais que je suis amoureux de ma femme, qu'elle s'est pareil, donc il n'y avait pas de raison à ce qu'il n'y ait pas Lucas. Voilà, donc, du coup, c'est soutenu mutuellement dans ce long parcours, mais... C'est ouais. Que du bonheur.
Mais c'est génial ce que tu dis, mais c'est super beau en théorie, quoi. Tu vois, c'est un truc que tu projettes ouais. Justement en te disant, ok, je me marie, et donc forcément, bah, c'est la femme de ma vie, et donc forcément, j'ai envie d'avoir un enfant. Et puis après, t'as la vraie vie qui te fout des claques en pleine gueule, et vous en avez pris plein.
Ouais, ça, tu le vois quand au quotidien. Tu vois, s'il y avait la personne à qui tu es, tu peux envisager l'avenir, avoir un enfant. C'est sûr que si... Tous les matins, tu t'en vas, tu rentres, t'es bourré, et que tu t'engueules et tu frappes ta femme, tu peux te dire que ta vie, elle sera pas avec. Bon, nous, c'est pas ça, je rassure.
Oui, mais c'est, voilà, quoi, ça va plus loin, c'est le fait que...
On est fusionnel, on fait tout ensemble.
Tous les couples ne sont pas aussi forts et n'arrivent pas à traverser une épreuve aussi difficile. Enfin, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais du coup, il y a des choses dans votre couple qui font que c'était des fondations solides qui vous ont aidé aussi.
Ah, mais complètement.
Oui, c'est ça. Exactement ça.
Tu valides ce que je dis ?
Je valide. Question suivante.
Je pense que ça peut être une épreuve dramatique pour un couple...
Non,
c'est
costaud, c'est vrai.
Un jeune couple ou un couple qui a des difficultés, malheureusement ça existe, hein. Des couples qui pensent réparer, un couple qui est un peu bancal en faisant un bébé, je pense que si ça tombe dessus, la prématurité, c'est juste la fin du couple. C'est éprouvant, mais il faut être deux, il faut être là, faut se soutenir. Parce que, ben, hormis le soutien qu'on avait un petit peu avec les autres parents qui traversent la prématurité, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on en parle à l'extérieur, à nos amis, à notre famille, on est un peu incompris, en fait.
Mais c'est inconnu, pour toute personne, c'est inconnu.
On se sent, voilà, moi, c'est... Et à juste titre, attention, moi... Personne ne peut s'imaginer, je pense, tant qu'on ne l'a pas vécu, ce que c'est que vivre H24 dans un service de réa. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'on soit comme ça, soudés, et ça permettait de s'entraider l'un l'autre, en fait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et de vivre la même chose, même si parfois on avait des points de vue qui divergeaient, mais de vivre la même chose au même moment et de comprendre l'autre.
Les gens croient que la prématurité, c'est un bébé qui naît trop tôt et qui est tout petit. Et ça reste là. En fait, non, t'as tout ce qu'il y a à côté, c'est que il est pas formé, il est très fragile. Voilà, les gens n'y pensent pas forcément.
Non, pas formé, il était formé d'un point de vue extérieur, en fait. Physiquement, il était formé. Après, c'est le problème de la prématurité, de l'extrême prématurité, comme Lucas, c'est que tous ses organes étaient immatures. Donc, oui, ça jouait au point de vue cardiaque, ça jouait au point de vue respiratoire, ça jouait au point de vue digestif. tout était immature et tous les jours on avait une nouvelle différente et ce qui est pas facile à partager. En plus, moi, je crois qu'on s'est un petit peu fermé, on s'est un peu mis aussi nous dans notre bulle. Hein. On n'a pas tout raconté à notre entourage non plus au moment où on l'a vécu. Hein.
Après, on a tellement raconté aussi que on a un peu marre.
Tu penses que c'est pour ça? C'est parce que vous en aviez marre ou
Moi, oui. Hmm bah, force, tu racontais les mêmes choses.
T'as pas parlé beaucoup.
C'est étonnant.
Elle a trop raconté dans sa tête.
Je crois qu'on poserait la question à ta mère de savoir ce qu'elle a su sur le parcours de Lucas. À part tout va bien. Ce qui est absolument pas le cas.
Mais je pense que c'est un chemin aussi pour toi, Jérôme, tu vois, d'être peut-être reconnecté à tes émotions et à ce que tu pensais, tu vois, d'avoir fait ce burn-out dont on a parlé ensemble, là. Alors, tu veux pas parler de burn-out, c'est vrai, tu veux parler de dépression, très bien.
Non, c'est la même chose.
Oui.
C'est vraiment un burn-out. Hein,
non, mais il veut pas, donc je vais pas l'embêter. Mais c'est intéressant, de ton point de vue, tu vois, le parcours que t'as fait par rapport à ton fiston, quoi.
Ouais, Jérôme, il réalise souvent à contre-coup. Sur le coup, tout va bien.
T'as la sensation d'avoir vu ton mec changer, toi? Pardon, c'est la première fois que j'ai la daronne en face de moi, pardon.
T'as jamais fait une maman?
Non, jamais fait.
Oui, il change sur certains points, ouais. Il change, mais je pense que, voilà, moi, il fonctionne beaucoup à contre-coup, Jérôme. Donc, sur le coup, tout va bien, on fonce, puis le mur arrête, et ouais, en fait, ça les fait, ça roulait pas si bien, quoi. Mais ça fait partie du fonctionnement de notre couple aussi, hein.
Moi, j'ai une question parce que on en a parlé à la fin de notre interview, le fait que jusqu'à 3 ans, la collectivité, enfin potentiellement, ça va être compliqué pour Lucas. Est-ce que vous en avez discuté entre vous de qui s'arrêtait, qui restait avec lui? Est-ce que tu te serais envisagé, pour l'instant, de ce que j'ai compris, l'accord, c'est que c'est toi qui va rester avec lui. Est-ce que tu te serais vu à 18 mois, faire les 18 derniers mois ou...
Non, oui, je l'aurais fait. C'est mon côté maternel.
Non, mais écoute, c'est des vraies questions dans les coups.
Non, j'aurais fait. C'est sûr, ça aurait fait un salaire beaucoup plus supérieur que le mien. C'est la question ne se posait même pas. Ça, malheureusement, il faut bien travailler. Il faut des revenus. Et... Bon, après, c'est chouette que ce soit la maman qui s'en occupe. Comme ça, il garde sa relation.
Qu'est-ce que t'en dis, Fanny? Les gens ne comprennent pas, si tu veux.
Je vais pas lutter contre, parce que je suis heureuse de rester avec Lucas, moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est encore l'entendre dire, c'est bien qu'il soit avec sa maman, hein, alors que je ne me trouve pas un rôle plus légitime que la maman ou le papa. C'est un papa poule, il s'en occupera très bien. Et si jamais on aurait dû faire un choix, ça ne me pose aucun souci de laisser Lucas avec son papa. Mais c'est encore, c'est marrant de l'entendre dire... Toujours là, d'idéaliser la place de maman, en fait.
Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il était tête en l'air et qu'il pourrait oublier un médicament.
Ça, elle n'a pas l'air de contredire.
Ouais, mais en fait, ce que je lui disais aussi, c'est que sans doute, le jour où il serait livré à lui-même, il serait obligé de s'y coller.
Il le ferait, je pense. Moi, il n'y aurait pas cette béquille de se reposer. Après, je ne sais pas, hein, peut-être. Hein, moi, mais non, je pense qu'il se mettrait...
Tu mettrais pas en danger ton fils, de toute façon.
Donc
tu ferais tout pour faire en sorte de pas oublier les médocs.
Si c'est un médicament, au pire, ce sera la vitamine, quoi. C'est voilà, moi, c'est. Pas... Non, quand même pas.
Cette bonne tête. Vous le voyez pas, mais il sourit, Lucas. Il fait des grands sourires et il fait des. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qu'on vous a pas posées et que vous auriez aimé qu'on vous pose?
Bon.
Oh, Jérôme, c'est bizarre que tu dises non.
Non, tout à l'heure, non.
Ouais, moi, j'ai une dernière question. Maintenant que vous avez vécu ce que c'est la prématurité, vous auriez envie de participer à une association ou d'aider d'autres parents, maintenant que vous avez un peu plus de recul? Est-ce que vous avez envie d'être impliqué avec des gens qui comprennent ce que vous avez vécu? Ou vous voulez laisser ça derrière vous pour en tourner une nouvelle page?
Je pense qu'à l'avenir, oui, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Vraiment, Je pense que pour l'instant, c'est trop tôt, on a encore trop la tête dedans. On est trop basé sur la prématurité encore. Mais à l'avenir, oui, j'y ai déjà pensé, ça peut m'intéresser, oui. Ça peut m'intéresser d'essayer d'apporter un petit peu de soutien aux gens qui traversent...
Bon, Lucas, tu veux le mot de la fin? Tout va bien? Au moins, on l'aura entendu, on aura compris que...
Qui va bien.
Que Lucas va bien, qu'il est avec vous.
Il a la forme, oui.
Et qu'il a la forme.
À la pêche. Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
à vous.
Merci à vous.
C'était chouette de faire un épisode à 4 et c'est rigolo de voir les différences.
Il est tard d'entendre l'épisode seul.
Ça y est.
Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Merci à Fanny et Jérôme pour leur témoignage. Retrouvez tous les épisodes du podcast dans la maison des parents sur vos applis de podcast habituels. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Pour rappel, mon site web est en ligne. Si vous cherchez des épisodes, allez-y y faire un tour. Vous trouverez votre bonheur, le lien est dans les notes. Je vous dis à très vite, à bientôt, puisque je suis en congé maternité pour la naissance de mon deuxième enfant. Mais je vous rassure, je ne vous laisse pas tout seul, il y aura des rediffusions le temps que je revienne en forme pour de nouveaux épisodes. À très vite, prenez soin de vous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.